RFI est là-bas, mais aussi ici. Kinshasa, 105 FM.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. À l'occasion de la 19e conférence internationale sur le sida, nous sommes cette semaine à Washington pour faire le point sur la lutte contre cette maladie. Des progrès importants ont été accomplis puisque selon les derniers chiffres de l'ONU sida, dans les pays à revenus bas et intermédiaires, plus de 8 millions de personnes contaminées par le VIH bénéficient aujourd'hui d'antirétroviraux, ces médicaments contre le sida. Mais c'est le double qui en aurait besoin. Et une des questions qui se pose pendant cette rencontre, c'est de savoir comment trouver les financements pour mettre plus de patients sous traitement. Dans un message vidéo diffusé au début de cette conférence, le président François Hollande a justement rappelé sa volonté de créer des financements innovants, supplémentaires. C'est le sens de la taxe sur les transactions financières qui sera mise en place dès le 1er août de cette année. Mais mauvaise nouvelle, seulement 10% devraient être consacrés à l'aide au développement. Alors cette conférence met aussi l'accent sur la question des droits des personnes porteuses du VIH-SIDA. Le rapport de la Commission mondiale sur le VIH et les droits de l'ONU montre, entre autres, que criminaliser les homosexuels entrave la lutte contre le SIDA. En fait, les politiques répressives alimentent l'épidémie. Alors quel est le point de vue des responsables des pays du Sud? Quelles sont les revendications des associations à l'occasion de cette conférence? Comment généraliser l'accès au traitement pour tous? Une émission réalisée avec l'appui de l'Union européenne. Je vous présente mes invités, Tabin Tangila de l'association Amo Congo en République démocratique du Congo, Foggé Foguito, président de Positive Génération au Cameroun, Bruno Spire, président d'Aide, et Jean-Paul Moati, professeur d'économie, et va nous rejoindre le professeur Thérèse Ndry, ministre de la Santé de Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, merci d'être là. Bruno Spire, que pensez-vous de la mise en place de cette taxation sur les transactions financières et du fait que finalement, d'après ce qu'a annoncé Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, seulement 10% serait vraiment consacré à l'aide au développement?
Nous, ça fait des années complètes pour cette taxe sur les transactions financières. On était extrêmement contents d'entendre le message vidéo du président Hollande qui avait l'air de l'affirmer haut et fort. Mais on est extrêmement déçus de voir le résultat annoncé par Laurent Fabius avec une taxe dont on n'est pas vraiment sûr de combien elle va vraiment rapporter et surtout dans lesquelles seulement 10% vont aller au développement et santé. Il va falloir qu'on mette plus de pression pour qu'on soit sûr que les promesses d'augmenter la contribution de la France dans le développement de façon générale soient tenues.
Jean-Paul Moati.
Je crois qu'il faut replacer ça dans le contexte. Depuis le début de ce siècle, il y a eu une augmentation sans précédent de l'aide au développement en matière de santé. Elle a été multipliée par 3 et c'est la lutte contre le sida et les pandémies infectieuses qui, légitimement, en a bénéficié d'abord. Aujourd'hui, on est à 17 milliards de financement total de la lutte contre le sida. Il y en a à peu près la moitié qui vient de l'aide internationale et en particulier par l'intermédiaire du Fonds mondial et du programme PEPFAR des Américains et l'autre moitié de la part des pays eux-mêmes. La question qui se pose, c'est que depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis la crise, l'aide internationale qui fait 50% est stagnante et donc c'est les pays qui font des efforts supplémentaires, ce qui est bien mais ce qui n'est pas suffisant, et que si on ne repart pas sur une dynamique d'augmentation, les promesses réitérées d'accès universel particulièrement importantes, puisqu'on dit aujourd'hui que l'accès universel permettrait vraiment, techniquement, d'éliminer et de contrôler totalement la pandémie à l'échelle de 10 ou 15 ans, ne seront
pas
tenues.
Une précision tout simplement parce que les gens qui sont sous traitement ne sont quasiment plus contaminants.
Non, parce qu'on a déjà, sans même attendre le vaccin, dont la recherche est bien sûr plus que jamais nécessaire, on a les outils techniques qui potentiellement permettrait effectivement de contrôler totalement l'épidémie et d'en finir avec cette pandémie, entre autres en mettant un nombre beaucoup plus important qu'actuellement de sous-traitement, puisqu'il y a à peu près seulement la moitié des gens couverts et que dans la perspective qui est de l'utilisation du traitement à des fins de prévention, il faudrait y compris étendre les critères d'éligibilité.
Donc plus de moyens financiers.
Bien sûr. Alors, dans ce contexte-là, c'est quand même très positif que la France soit le premier pays à avoir envoyé un signe pour dire nous on est prêt a augmenté les choses.
Début, c'est une bonne nouvelle.
C'est une très bonne nouvelle et elle a été très bien entendue par l'ensemble de la communauté ici.
Et pendant cette conférence.
Et d'une certaine manière, elle faisait entendre une petite musique un peu différente de celle de nos amis américains, qui, eux, nous disent avant tout, augmentons l'efficacité des programmes. Ce qui est vrai, il faut augmenter l'efficacité des programmes. Moi, ça me fait un peu sourire. Parce qu'en tant qu'économiste de la santé, je sais que les deux pays au monde où il y a le plus d'inefficacité dans les systèmes de santé, c'est ceux qui dépensent le plus, c'est-à-dire les États-Unis et la France. Donc, en gros, on va demander à nos amis du Sud de faire beaucoup mieux que nous. Tant mieux. Et je pense qu'ils vont y arriver et on aura des leçons à en retirer par rapport à ça. Mais même si on fait des gains d'efficacité, on peut gagner 10%, 20%, c'est-à-dire qu'avec la même somme, on peut faire 10 ou 20% de plus.
Mais pas c'est le double, alors que c'est le double
qu'il faudrait.
Mais alors, vous n'avez pas réagi sur cette question des 10%. Alors, c'est une bonne nouvelle, cette taxation
si vous voulez,
financière,
après,
mais Bruno Spire vient de dire les 10%, c'est pas
après,
une bonne nouvelle.
Après, c'est vrai que il y a différentes formes de taxes financières, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Ce qu'ils ont fait là, par rapport au projet initial du gouvernement précédent, c'est de passer de 0,1% à 0,2%, ce qu'on appelle un droit de timbre, c'est-à-dire une taxe sur les achats d'actions à la Bourse de Paris. Soit dit en passant, des taxes de ce type existaient déjà à Taïwan, au Brésil et au Royaume-Uni, où elle est de 0,5% depuis...
Donc bien plus importante que ce
plus importante depuis, et elle date du XVIIe siècle. Hein. Mais c'est déjà un bon point. On peut compter avec cette taxe en régime de croisière, c'est-à-dire à partir de 2013, pour une somme de l'ordre de 1,5 milliard. C'est vrai que du coup, ça veut dire 150 millions de plus pour l'aide au développement, totalement. Hein, et donc, on ne sait pas quelle part irait à la santé, à la lutte contre le sida. C'est une augmentation, alors que personne n'augmente, mais ça risque d'être une augmentation limitée par rapport aux 400 millions qui sont déjà mis sur la table par la France, qui est par exemple le deuxième donneur du Fonds mondial. Donc, c'est vrai qu'il faut pousser.
Je voudrais avoir la réaction de Tabin Tandjila et de Foggé Foguito, tous les deux du continent africain, du Cameroun et de la République démocratique du Congo. Foggé Foguito, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la mise en place de cette taxe sur les transactions financières ?
Je crois que nous avons été très heureux de lutter pour qu'il y ait cette taxe, c'est-à-dire de s'engager, de mettre beaucoup d'énergie pour qu'il y ait cette taxe. Et j'ai le sentiment, pour ne pas vous laisser reposer la question, d'avoir fait trop d'efforts pour rien. Quand je suis hier, le ministre français d'Affaires étrangères dit qu'il n'y a que 10% alloués à l'aide au développement. Mais quand même, si on est dans une guerre, qui a fait plus d'efforts pour cette guerre-là? C'est les artistes de la santé, notamment du VIH-SIDA, qu'on ne se leurre pas. Il faut bien qu'on reconnaisse ça. Alors qu'on vient aujourd'hui nous dire, oui, vous avez bien fait de lutter comme ça, et que 10%, vous n'aurez que droit à l'effort de guerre.
10% pour l'aide au développement, ça fait plus beaucoup sur la santé, beaucoup après sur le sida.
Tout à fait. Donc moi je dis, c'est trop d'efforts que nous avons engagés depuis presque 3 à 4 ans avec la taxe Robin des Bois, avec tous les efforts qu'on a fait pour se mobiliser, mettre nos vies en danger, être arrêtés, menacés parce qu'on le faisait. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'on va se servir de 90% pour justifier les mauvaises décisions politiques et économiques des États. Je dis, c'est impossible, c'est impensable.
Alors Foggé Foguito, pourquoi vous dites mettre votre vie en danger? Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous au Cameroun en ce moment?
Bon, en ce moment, nous sommes sous le coup de plusieurs procès, notamment le prochain qui aura lieu le 22 juin, parce que nous avons osé demander à nos représentants au Parlement, dont les députés camerounais, de ne pas, en 2010, voter un budget où il n'y a pas au moins 15% du budget qui est alloué à la santé. Et pour ça, nous avons comme une épée de Damoclès, nous courons tous les jours de procès en procès. Tous les jours, nous sommes dans les tribunaux, au lieu d'être dans les hôpitaux, au lieu d'être sur le terrain, pour défendre la voix des patients.
Et un procès qui aura lieu le 22 août pour vous, c'est ça, concrètement?
Oui.
Et vous êtes accusé de quoi dans ce procès?
Comme d'habitude, de trouble à l'ordre public. Vous savez, ça fait rire au 21e siècle qu'on puisse dire qu'il y a trouble à l'ordre public quand des gens veulent tout simplement, de manière pacifique, polie, et en respecter toutes les règles de l'art, c'est-à-dire légalement parlant, pour faire entendre leur voix. On estime que ça ne devrait pas se faire, ce n'est pas une bonne publicité pour notre pays. On a plus d'énergie à mettre ailleurs pour lutter. Parce que pendant qu'on le fait, le virus, il multiplie ses énergies fois mille pour continuer à apporter la misère et la pauvreté. C'est pas ça l'objet de la lutte. La lutte, c'est ailleurs. Donc, je dis, tous ces efforts-là, que ce soit au niveau des pays du Sud, quand je parle des pays du Sud, je m'adresse pas seulement au continent africain, à l'Asie, à l'Amérique latine, qu'on fasse tous ces efforts-là et qu'aujourd'hui, le deuxième contributeur du monde, au Fonds mondial, comme disait le professeur Moati, puisse ne pas montrer l'exemple par cette manière de faire. Moi, c'est mon point de vue en tant qu'acteur, en tant que patient, ça me fait très mal.
Vous vouliez réagir, Jean-Paul Moitier.
Si, parce que je comprends tout à fait votre réaction. Hein. Le problème principal, c'est pas 10%. On va se battre, bien sûr, pour que ça soit plus. On est bien d'accord. Mais de toute façon, la vraie question qui est posée, c'est que cette taxe, c'est pas encore la taxe sur les transactions financières que nous appelons de nos voeux et pour lequel on s'est battu et on continuera de se battre ensemble. Le problème, c'est pas les 10%, parce qu'on peut comprendre qu'un gouvernement dise, je ne peux mettre, parce que j'ai d'autres contraintes, que 10%, 20% là-dessus, en pleine crise financière. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est simplement une petite taxe sur une toute petite partie des transactions financières qui sont les actions des 110. Et donc, le vrai combat, c'est pas simplement pour augmenter 10% ou 20%, c'est de dire que le combat pour les taxes sur les transactions financières, il ne fait que commencer, et qu'il va falloir étendre l'assiette des transactions financières couvertes par cette taxe.
Alors, il y en a deux qui veulent réagir à ce que vous dites. Voilà. Bruno Spir et Foguet Foguito.
Oui, bon, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Paul, parce que je pense quand même que 10%, c'est un très mauvais signal. Et que, franchement, moi, j'ai l'impression qu'on nous vole notre taxe, d'une certaine façon. Pendant des années, on a dit qu'on était des doux rêveurs, des utopistes, d'imaginer une taxe sur les transactions financières. Vraiment, c'était, on passait pour des rigolos. Et puis maintenant, avec la crise financière, ils commencent à dire que finalement, les associations, c'est peut-être une bonne idée quand même de faire cette taxe. Alors non seulement on fait cette taxe, on garde 10% pour se donner bonne conscience, et le reste, comme ça a été dit, c'est vraiment pour éponger des déficits qui viennent de mauvaises politiques antérieures et de ne pas s'attaquer aux vraies causes de la crise, c'est-à-dire les inégalités.
Foguet Foguito.
Je suis désolé, le professeur Jean-Paul Mathieu est un économiste, il n'y a pas de crise financière, il y a une crise morale. Il n'y a pas une crise financière dans le monde qu'on arrête de nous tromper. Il n'y a pas de crise financière puisqu'il y en a toujours qui sont assez riches et qui continuent à faire beaucoup de bénéfices pendant qu'il y en a qui sont très pauvres. Il y a une crise morale. Est-ce que moralement et humainement parlant, parce que ça me fait rêver des humanistes que je lisais dans les bouquins du 17e siècle, est-ce que humainement parlant, on peut laisser une partie de la population ne pas avoir accès aux soins? Est-ce que humainement parlant, on est sur la même terre? Donc je voudrais dire, il n'y a pas de crise financière de mon point de vue, il y a une crise morale du monde.
Priorité santé cette semaine à Washington à l'occasion de la conférence internationale sur le sida. Tabin Tandjila, je voudrais justement vous donner la parole pour parler de la situation en République démocratique du Congo. Dans votre pays, 12% des patients qui en auraient besoin ont accès aux antirétroviraux, ces médicaments contre le sida. En ce qui concerne la prévention de la transmission du sida de la mère à l'enfant, c'est seulement 5% qui en bénéficient. La République démocratique du Congo est-elle dans une situation vraiment catastrophique en ce qui concerne la lutte contre le sida?
Oui, la République démocratique du Congo est dans une situation de crise humanitaire au regard du VIH. C'est plus d'un million de personnes qui vivent, un million, je répète, de personnes qui vivent avec le VIH au Congo.
Et là-dessus, quoi, c'est à peu près 50 000 qui ont accès à un traitement, c'est ça? C'est quoi?
Seulement 50 000 qui ont accès au traitement. Il y a près de 450 000 personnes qui ont besoin de traitement et qui meurent dans le silence. Ça, c'est une crise.
Et pourquoi il y a cette crise?
D'abord, la responsabilité de l'État qui est engagée.
Parce l'État pays, congolais.
L'État congolais. Parce que l'État a voté une loi le 14 juillet 2008 qui consacre la gratuité des soins à toutes les personnes vivant avec le VIH. Et cette loi n'est pas d'application aujourd'hui. Nous ne cessons de le réclamer. Mais quand on réclame, on a...
Comme les mêmes cas, problèmes que Foguet Foguito au
comme
Cameroun.
Comme les cas au Cameroun, on tape dessus. Donc ça ne marche pas. Mais à côté de cette situation, il y a aussi le budget de l'État qui devrait être assez conséquent face à cette situation. Mais par contre, vous remarquerez qu'en 2011, par exemple, c'est moins d'un dollar. Moins d'un dollar consacré par personne vivant avec le VIH sur toute l'année. Et ça, c'est aussi une irresponsabilité de l'État. Mais cette irresponsabilité, c'est vrai qu'il y a quelques efforts qui sont en train de faire, mais qui sont insuffisants. Donc, moi, je me dis que face à cette situation de crise humanitaire, il s'ajoute également les désinvestissements des bailleurs de fonds.
Et pourquoi, justement, les bailleurs de fonds se sont retirés, le Fonds mondial, la Banque mondiale, Unitaid ?
Bon, au fait, la Banque mondiale, le programme est arrivé à terme. L'Unitaid, je crois que c'est d'ici fin 2012, ils vont devoir faire leurs valises, à moins qu'on ait un son de cloche assez différent. Et Fonds mondial, sa contribution, qui est la plus importante au pays, c'est celle qui nous permet de mettre sous traitement près de 50 000 personnes. Vous voyez, donc il y a là la fameuse crise financière derrière laquelle tout le monde se cache. Bon, c'est un problème aussi qui se pose. Donc, d'une manière générale, nous pensons que cette situation, elle est une crise et doit être reconnue premièrement par l'État congolais, mais également les autres bailleurs à qui nous sommes en train de lancer un appel à travers cette émission, de venir au secours de ces peuples qui meurent en silence. Bien sûr, il y a beaucoup de taux de décès, mais également des perdus de vue. Quand on dit perdu de vue, on parle aussi un peu de la corruption des politiques publiques qui se passe. Récemment, le gouvernement a décidé d'intégrer tous les malades dans les hôpitaux de l'État. Une décision qui n'a pas manqué de conséquences parce qu'il y a eu beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de perdus de vue.
Qu'on comprenne, parce qu'avant c'était les associations principalement qui prenaient en charge les patients en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est l'État congolais. Mais la conséquence, c'est qu'apparemment, il y a eu beaucoup de gens, entre guillemets, perdus de vue. C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qu'ils sont devenus.
Malheureusement, avant, je crois la lutte a commencé au Congo plus avec les associations. Il se pose maintenant un problème de concurrence. Je crois qu'on doit dire des choses telles qu'elles se passent. Donc, d'une part, il y a le pouvoir public qui estime que...
Ce qu'on peut comprendre, c'est le rôle, finalement, c'est le rôle du ministère de la Santé de prendre en charge ses patients.
Voilà, il doit prendre le rôle de régulateur, etc., mais également de la prise en charge. C'est qu'il y a une bonne chose. Mais cette mesure de fermer les centres a été trop brusque et trop brutale.
Et fermer les centres, c'est entre autres fermer les centres d'Amo Congo. Vous preniez en charge vous des patients.
Oui, quelques centres d'Amo Congo ont été fermés. Et aujourd'hui, on avait près de 21 centres. Tous ont été fermés. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul centre qui fonctionne. Mais ce centre fonctionne sur base des cotisations de malades, qui c'est ce que nous appelons le ticket modérateur. Et ça, pour le malade, ça constitue encore un poids. Alors que c'est un peu ça la contradiction. On a transféré le malade vers les centres des hôpitaux de l'État. D'une part, ces malades qui sont partis, ils continuent à payer aussi leurs consultations. Ils payent tous les services, ils payent les bilans biologiques. Donc,
c'est pas gratuit.
C'est pas
Je
gratuit.
Voudrais que Bruno Spire réagisse là-dessus. Vous êtes président d'Aide et c'est une de vos préoccupations pendant cette conférence, la situation en République démocratique du Congo.
Bah, c'est absolument effrayant. Pour moi, c'est vraiment un crime contre l'humanité qui est en train d'être réalisé, en fait, dans l'indifférence générale. Et clairement, il faut qu'on le dénonce de manière encore plus forte. Et je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que l'État ne fait pas son travail, et non seulement ne fait pas son travail, mais en plus prend la main sur des associations qui faisaient un excellent travail en le faisant moins et moins bien. Donc c'est vraiment inadmissible et il faut que la communauté internationale réagisse rapidement.
Jean-Paul Moiti, vous vouliez aussi réagir.
À mon avis, ça démontre que si on reste dans des choses trop bilatérales, il y a des cases qui restent vides. Et que la seule chance, c'est qu'il y ait plus de multilatéral. J'ai connu des situations dans lesquelles le Fonds mondial était le seul à intervenir, par exemple au Soudan, parce que c'était pas facile et qu'on pouvait pas après faire beaucoup de publicité sur ce qui était fait. Mais ça veut dire qu'il faut du multilatéral. Mais justement, ça veut dire qu'il faut évidemment mettre le Fonds mondial aussi devant ses responsabilités par rapport à la situation en RDC, qui est gravissime.
On se retrouve dans 3 minutes après les informations, donc toujours pour parler des revendications dans la lutte contre le sida à l'occasion de cette conférence internationale qui se déroule en ce moment à Washington. Et je donnerai plus particulièrement la parole au professeur Thérèse Ndri, qui est ministre de la Santé au Côte d'Ivoire et qui vient de nous rejoindre.